Eh bien, prions le Seigneur ce matin. Notre Dieu, nous voici réunis aujourd'hui, en ce dernier dimanche de l'année 2008. Nous sommes heureux, Seigneur, d'avoir pu tenir ferme jusqu'à ce jour, grâce à ton esprit, et nous te prions, mon Dieu, que tu nous tiennes encore ferme jusqu'à ton glorieux retour. Merci, mon Dieu, de bénir la parole que je vais apporter tout à l'heure dans le cœur de mes frères et sœurs, qu'ils soient ici, au château sanctuaire, ou qu'ils soient à l'autre bout du monde. Seigneur notre Dieu, tu bénis, tu envoies ta bénédiction et ta force par ton Saint-Esprit. Merci Jésus. Amen. Amen. On va chanter tous sur Internet et qui ne connaissent pas ce chant. Eh bien, vous allez pouvoir l'apprendre. Vous prenez un stylo, vous notez les paroles et puis on va le chanter ensemble. Le numéro, c'est 57. Je t'aime, c'est vrai, je t'aime. Gloire à Dieu. Il fait très froid ici, hein. Ouh là là. Enfin, pas dans la chapelle, ça va. Merci Philippe.
Je t'aime, c'est vrai, je t'aime. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, oui, je t'aimerai toujours. Pour la femme accusée que des hommes ont jeté par terre devant toi, pour la femme qui oignait tes pieds de ses larmes que tu n'as pas rejetées, un cri de joie monte vers toi, un cri que rien n'arrêtera. Je t'aime, c'est vrai, je t'aime. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, oh oui, je t'aimerai toujours. Pour cet homme lépreux à qui tu as donné un nouveau visage, pour cet homme muet au cœur plein de foi qui a pu te louer, un cri de joie monte vers toi, un cri que rien n'arrêtera. Je t'aime, c'est vrai, je t'aime. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, oui, je t'aimerai toujours. Pour ce terrible jour où tu donnas ta vie clouée sur la croix, pour ce merveilleux jour sortant du tombeau, on te vit ressuscité. Un cri de joie monte vers toi, un cri que rien n'arrêtera. Je t'aime, c'est vrai, je t'aime. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, oh oui, je t'aimerai toujours. Je t'aime, c'est vrai, je t'aime. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, oh oui, je t'aimerai toujours.
Amen, gloire à Dieu. Merci les deux musiciens, on n'a que deux musiciens aujourd'hui, mais c'était joli quand même. Merci, que Dieu vous bénisse, c'était beau. Amen. Gloire à Dieu. Tout le monde va bien ? Est-ce que tout le monde va bien ce matin ? Nicolas Savadogo nous a quittés, il est parti au Luxembourg, ensuite il descendra, je crois, en Italie du Nord, et puis après, en Belgique, voilà. Il a trouvé le capitaine ad hoc dans son château de Moulinsart, et il a un faible pour les gens qui ont des châteaux. On va lire Jean chapitre 1, versets 29 à 31, s'il vous plaît. je crois qu'il a reçu encore une voiture, c'est Nicolas, il m'a dit. Il va ouvrir un garage si ça continue. Quel homme de foi. Jean 1, 29-31. Le lendemain, il, c'est-à-dire Jean-Baptiste, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui dont j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Amen. Quand Jésus est né, une étoile brillait pour conduire les mages jusque à Jésus, un signe pour montrer où est Jésus. Des anges sont apparus dans le ciel et ont montré la direction à des bergers. Où est Jésus? Il y a toujours des signes. Quand Jésus commença son ministère, Jean, Baptiste, prophète, revêtu de l'esprit d'Élie, le présenta au monde. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et puis Jésus exerça son ministère. Et puis arriva le jour pour lequel il était venu, le jour de la Pâque parfaite, le jour où Jésus a porté nos péchés, où il a détruit l'ordonnance, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. On trouve ça dans Colossiens 2, 14. Il a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Voilà comment il a ôté le péché du monde. Détruisant l'acte, la loi, dont les ordonnances, les commandements, c'était « tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça », c'est ça qui nous condamnait. Eh bien, détruisant cela, il a ôté les péchés du monde. Le monde ne voit pas ça comme ça, mais tant pis, le monde voit ça comme il veut. Nous le voyons avec nos yeux spirituels. Nous le voyons parce que nous regardons par la foi. Nous voyons avec les anges que la terre est maintenant remplie de la gloire de l'Éternel. Le monde ne voit pas ça du tout. Le monde ne voit pas ça du tout. Et là, sur les bords du Jourdain, après avoir dit une première fois, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », le lendemain, Jean-Baptiste parlait en intimité avec deux de ses disciples, et ayant vu Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Est-ce que vous aviez déjà remarqué que Jésus a été nommé deux fois par Jean? Ça se trouve au verset 35. Je me suis dit, Seigneur, pourquoi? Ça doit être important. Pourquoi c'est écrit comme ça? Une première fois, Jean-Baptiste, revêtu de l'esprit d'Élie, proclama « Voici l'agneau de Dieu ». Et une deuxième fois, Jean-Baptiste, revêtu de l'esprit d'Élie, dit à deux des siens, dans l'intimité presque cachée, « Voici l'agneau de Dieu ». Mes frères et sœurs, nous savons que l'esprit d'Élie est revenu pendant le siècle passé et il a présenté au monde l'épouse de Christ telle qu'elle doit être. Hors dénomination, sur le fondement unique de la parole de Dieu. Ça fait 43 ans qu'il est parti. C'était le 24 décembre. 43 ans après, le même esprit d'Élie parle de par le monde, mais ce n'est plus une grande proclamation publique avec tout ce que cela a comporté à cette époque. C'est juste pour deux de ses disciples. Dieu s'adresse encore aujourd'hui à ceux qui sont les siens et qui se trouvent dans les deux grandes tendances religieuses chrétiennes, l'Église catholique et l'Église protestante. Voici l'épouse de Christ, Église catholique, Église protestante. Quand je dis cela, je dis avec tout ce que cela comporte d'évangélique et de tout ce que vous voulez, l'épouse de Christ, c'est celle qu'il a choisie lui-même. Et celle qu'il a choisie, c'est celle qui répond à ses désirs. Il la désire sans tache, ni ride. Il la désire fière de porter son nom à lui. Voici l'épouse de Christ. Quel est son nom? Elle ne porte aucun autre nom que celui de son épouse. Bonjour mon frère, à quelle dénomination appartiens-tu? Je n'appartiens pas à une dénomination. J'appartiens à mon époux. Mais tu as bien un nom. Oui, je m'appelle Madame Jésus. Je porte le nom de mon époux. Que fait-elle de spécial, cette épouse de Christ? Eh bien, elle fait les mêmes choses qu'a fait son époux. Quel est son caractère? Elle est soumise à son époux. Elle ne revendique pas ses droits. Elle est humble de cœur, elle est serviable, elle est fidèle. La voici. Voici l'épouse de Christ. Elle a le pouvoir de l'amour parce qu'elle l'a exercé jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, dans la communion fraternelle, dans l'Église. Elle a exercé l'amour, apprenant à se taire, apprenant à pardonner, apprenant à passer par-dessus les choses, apprenant à couvrir le péché des uns et des autres par l'amour, dans la discipline du renoncement à soi. Elle a le pouvoir de faire des miracles, parce que son cœur est attaché au cœur de son époux, le grand faiseur de miracles. Voilà l'épouse de Christ. Oh, est-elle intelligente? Oui, parce qu'elle est curieuse. Elle cherche à connaître. Elle ne se cantonne pas dans des doctrines et des dogmes étriqués. Elle cherche à comprendre. Elle ne croit pas que son époux n'a plus rien à dire. Elle ne croit pas que c'est fini. Mais Dieu parle encore, et alors elle l'écoute. Regardez, voici l'épouse. Mais, pourquoi est-ce qu'elle boite? Elle boite parce qu'elle ajoute dans sa propre chair les souffrances qui manquent à l'époux. Elle a été mordue au talon par le serpent ancien, Genèse 3,15. Mais sa guérison est prévue. Elle va revêtir un corps nouveau, elle va revêtir un corps parfait, et de ses yeux, plus jamais aucune larme ne coulera. Aujourd'hui, alors que l'épouse est arrivée à sa majorité, elle doit être présentée une deuxième fois. Car elle a le pouvoir, aujourd'hui, ayant atteint sa majorité, de repousser le péché et d'exécuter la discipline. Vous lirez Matthieu 18, 15. À 18. Elle a le pouvoir de la prière exaucée pour la cause de Dieu sur la terre. Matthieu 18, 19 à 20. Elle a le pouvoir de lier les puissances démoniaques et de libérer les captifs sur la terre et sous la terre. Matthieu 18, 19, 20. 1 Corinthiens 15, 29. C'est elle qui proclame la culpabilité liée au péché. C'est elle qui proclame le modèle de justice de Dieu. C'est elle qui proclame le jugement à venir. C'est elle qui proclame le salut. C'est elle qui proclame le pardon des péchés pour ceux qui se repentent et qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Jean 20, 23, Actes 2, 37, 40, Actes 15, 7 à 9. Ce que lui faisait, c'est elle qui le fait aujourd'hui, pleinement. C'est elle qui a donc le pouvoir de pardonner les péchés. C'est elle qui a aussi le pouvoir de les retenir. Jean 20, 23. Quand je vous dis, voici l'épouse de Christ, je ne suis pas en train de vous montrer un groupe de personnes en particulier. Je vous montre ceux qui correspondent à ce que la Bible dit que l'épouse doit être. Mes frères et mes sœurs, l'épouse de Christ est une épouse digne de son époux. Ce qu'elle fait, elle ne le fait que pour la gloire de son époux. Elle ne fait pas ça pour l'argent. Elle ne fait pas ça pour sa propre gloire. Elle ne fait pas ça pour la gloire d'une organisation humaine. Son époux disait, je ne fais rien de moi-même, je fais la volonté de mon Père. Elle, l'épouse, elle dit, je ne fais rien de moi-même, je fais les œuvres que mon époux faisait quand il était sur la terre, je m'inspire de sa façon d'agir, je continue son œuvre. Et j'ai le même esprit que lui. J'aime les pécheurs, mais j'ai quelques problèmes avec l'esprit religieux. Comme son époux, elle fait. Comme il faisait, elle fait. Un jour, se présentant dans son village, Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Ça veut nous dire quoi? Ça veut nous dire que il a prié pour des malades, il a imposé les mains à des malades, mais ça n'a pas marché à cause de leur incrédulité. Se présentant Verset proche, l'épouse fait de même. Elle prie, elle essaye, mais elle ne peut pas faire beaucoup de miracles pour les mêmes raisons. Alors, elle laisse ceux qu'elle aime, ses proches, et qui ne croient pas en elle. Frères et sœurs, si elle ne les laisse pas, elle va se décourager. Elle va faire de l'acharnement thérapeutique, elle va se décourager et elle va baisser les bras. Frères et sœurs, vous devez être crédibles. Vous devez tout faire pour que les gens vous croient, pour que les gens croient que vous êtes ce que vous, la Bible dit que vous êtes, pour que les gens croient à ce que vous dites. Vous devez être crédible, vous devez tout faire pour que les gens croient à ce que vous faites. Mais si les gens décident de ne pas vous croire, s'ils vous prêtent de mauvaises intentions, vous ne pourrez rien faire. Si Jésus n'a rien pu faire, vous n'êtes pas plus fort. Vous ne pourrez rien faire non plus. Faites comme lui, allez ailleurs. Allez ailleurs. Où, Seigneur? N'importe où. Parce que vous trouverez toujours et partout des gens qui reconnaîtront que vous êtes l'épouse de Christ. Voilà l'épouse de Christ. De nos jours, l'épouse ne fait que ce que l'époux a fait il y a 2000 ans. Elle guérit les malades, chasse les démons, elle donne à manger aux gens, elle multiplie la nourriture, elle ressuscite les morts. Elle le fait, non pas pour attirer la gloire sur elle-même, mais parce que le peuple a oublié que l'époux faisait cela. Alors elle leur montre ce que l'époux et l'épouse font. Elle fait ces choses pour attirer l'attention des gens sur Jésus, sur son époux divin. Jésus enseignait et son épouse continue d'enseigner. Est-ce que Jésus prenait l'Ancien Testament et commentait l'Ancien Testament à n'en plus finir, racontant l'histoire d'Abraham, de Joseph, de Moïse? Non, il avait un message pour son temps. L'épouse d'aujourd'hui ne se borne pas à redire les mêmes choses que Jésus a dites. L'épouse enseigne ce que son époux lui donne pour son temps. Nous ne rajoutons pas à la parole de Dieu, mais selon l'analogie de la foi, nous lui donnons l'éclairage dont le peuple a besoin aujourd'hui. Et alors, c'est ce que la Bible appelle le rétablissement de toutes choses. C'est un processus. Les choses sont rétablies, la vérité est rétablie, les points obscurs deviennent lumineux. Ce qui n'avait pas brillé dans l'Église des nations se met à briller, ce qui avait brillé dans l'Église de Jérusalem, l'Église primitive, ça se met à briller maintenant dans l'Église des nations, parce que la lumière qui émane de l'époux, mes frères et sœurs, sur l'épouse, donne la clarté suffisante pour que 20 siècles de ténèbres religieux reculent. Alléluia! Alors, comme ils ont fait à l'époux, ils font à l'épouse. Ils ont voulu le lapider, ils ont jeté des pierres. Ils ont voulu le jeter en bas un ravin pour le tuer. Ils ont voulu salir sa réputation. Mais ils n'ont pas pu. Il avait une œuvre à accomplir et il était jusqu'au bout de ce qu'il devait accomplir. Que sont devenues les bouches qui l'ont insulté? Que sont devenues les mains qui ont jeté des pierres? Pourriture. Des bouches aujourd'hui qui ne sont plus que des ossements à moitié détruits et remplis de terre. Alors que de la bouche de Jésus, les paroles continuent à sortir, toujours vivantes et vivifiantes. Amen. L'histoire se répète. Aujourd'hui, des dizaines de milliers de chrétiens sont torturés chaque année sur cette terre. Des dizaines de milliers de chrétiens, il faut le dire, en Chine et dans les pays musulmans, il faut le dire, c'est vrai. L'histoire se répète. Et l'épouse, que fait-elle? Est-ce qu'elle va poser des bombes? Non. Elle prie pour ceux qui la persécutent, elle prie pour les bourreaux, afin qu'ils se convertissent. Pourquoi fait-elle cela? Parce que l'époux a fait cela. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. De quel côté êtes-vous? Il n'y a pas de neutralité dans cette affaire. Il n'y a pas de neutralité. Vous êtes pour ou vous êtes contre Christ. Et vous ne pouvez pas être pour Christ en étant contre son épouse. Même si vous trouvez dans l'épouse des imperfections, même si vous trouvez dans l'épouse de quoi juger, de quoi critiquer, ne jugez pas. Parce que vous n'en avez pas le droit. C'est l'époux qui l'a dit. Regardez ce qui est arrivé à Marie, la sœur de Moïse, qui s'est permis, et à Aaron, qui se sont permis de lever la langue. Parce qu'ils trouvaient que ce n'était pas normal que Moïse, qui avait institué la loi et qui disait qu'il ne fallait pas prendre d'épouse étrangère, avait pris une épouse étrangère. Ah, il semblait qu'ils avaient raison, hein? Eh bien, Dieu se tourna contre eux et c'est eux qui ont attrapé la lèpre. Pourquoi? Parce que l'époux se tient à côté de son épouse et il défendra son épouse, même si elle a tort. C'est une histoire d'amour entre l'époux et l'épouse. Soyez donc humble, soyez donc gentil. Souvenez-vous d'où vous venez. Ne soyez pas plus royaliste que le roi. Ne nous remettez pas sous le joug de la loi alors que la loi a été détruite avec toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Maintenant, nous sommes sous le régime de l'amour et du pardon. Aucune loi nous oblige d'aimer. Nous aimons si nous aimons. C'est un pouvoir qui est donné par Dieu. On n'aime pas parce qu'on est obligé de le faire. Nous aimons, même si ça nous coûte, je dirais même, nous aimons surtout si ça nous coûte. Parce que là, le nom de Jésus est encore glorifié davantage. Frères et sœurs, c'est mon dernier message de 2008. Ah, qu'est-ce que nous réserve l'année qui vient? Ah, quand on s'est souhaité la bonne année, le minuit... de l'année 2007-2008, je ne pensais pas que je subirais toutes ces épreuves que j'ai subies. On s'est souhaité bonne année, on pensait qu'elle allait être bonne, hein? Oh, elle était bonne, oui, non. Là, on a pas mal ramé cette année, hein? Mais que de victoires aussi, non? Que de victoires aussi, amen. Que nous réserve l'année qui vient? Ah, tout le monde parle de 2012. Mais que nous réserve 2009? Ne croyez pas que ça sera mieux que 2008. Ne croyez pas ça. Les choses vont empirer. Le quatrième sceau d'Apocalypse a été ouvert. Qu'est-ce qu'il y a sous le quatrième sceau? Ça nous est dit dans Matthieu 24. Là est son pendant. Guerre, famine, mortalité, suicide, virus sauvage, persécution des chrétiens. Plusieurs chrétiens abandonneront la foi et iront même jusqu'à trahir leurs propres frères. Des nouveaux faux prophètes vont se lever pour séduire beaucoup de gens. L'amour du plus grand nombre se refroidira. L'évangile, par contre, sera prêché dans le monde entier. Alors viendra la fin du temps des nations. Pas la fin du monde, la fin du temps des nations. À ce moment-là, l'épouse sera enlevée. Et le cinquième sceau s'ouvrira, grande tribulation. Mais ça ne nous regarde pas. Nous ne serons plus là. Amen, nous ne serons plus là. Cela va-t-il arriver en 2009, Michel? 2009 verra ces choses se mettre en place suffisamment discrètement pour que les gens n'y prennent pas garde et disent « Oh là là là, ça va mal. Oh là 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 là, ça va mal. Oh là 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 là, très très mal. Oui, passe-moi le beurre. » Ce qui se met en place tuera un quart de la population de la Terre. Mais non, Michel. Mais oui, monsieur. Mais oui, monsieur. Mais oui, madame. Mais tu nous fais peur. T'es un mauvais. T'es pas bon. C'est pas bien. On doit prêcher l'amour. Tais-toi, espèce d'ignorant. Je dois prêcher la vérité. L'amour est dans la vérité. Et si je ne dis pas la vérité, je sais que je ne t'aime pas. Un quart de la population va mourir. Et ce qui se prépare en 2009, c'est la mise en place de cette horreur. Ça ne va pas aller de mieux en mieux. J'observe le monde à la lumière des Écritures et je dis, soyez de ceux qui tiendront et qui persévéreront jusqu'à la fin. Allez sur vos genoux, priez Dieu qu'il vous donne la force de persévérer jusqu'à la fin. L'esprit d'Élie crie aujourd'hui, voici l'épouse. Il vous montre, l'esprit d'Élie vous montre au monde. Les gens regardent, ils disent, c'est étonnant. Ah, on n'a jamais vu ça. C'est curieux, c'est bizarre. Mais d'où vient cela? Vous êtes observés. Alors montrez-vous, mais montrez-vous digne de votre vocation. Montrez-vous digne de votre époux. C'est-à-dire acceptez le joug que Jésus veut porter avec vous dans l'Église et dans le monde. C'est-à-dire disciplinez-vous vous-même de peur d'être placé sous sa discipline parce qu'il châtie ceux qu'il aime. Ce n'est pas des menaces, c'est de l'amour. Veillez, priez, soyez serviteurs et servantes, comme l'époux qui est venu pour servir et non pour être servi. Efforcez-vous, après avoir passé la porte, de continuer à marcher sur le chemin étroit. Ne vous lassez pas de faire le bien. Dieu tient compte de tout ça. Le jour approche où Jésus paraîtra dans le ciel, dans les nuées. Le monde ne le verra pas. Le monde ne voit rien. Mais nous, nous serons enlevés à sa rencontre. Mais nous le verrons seulement si nos lampes sont allumées, c'est-à-dire si notre regard se porte sur les choses de valeur, sur les choses nobles, sur les choses éternelles. Veillez donc à vos lampes, c'est-à-dire veillez à vos yeux, veillez à votre regard, veillez à votre façon de regarder Dieu, veillez à votre façon de regarder vos frères et sœurs, veillez à votre façon de regarder les gens, les choses, les ministres de Dieu, les événements. Veillez à votre façon de regarder. L'esprit d'Élie dit une seconde fois, voici l'épouse de Christ. Une première fois, il l'a dit, dans les années 40, 50, 60. Et une seconde fois, il l'a dit, je ne suis pas Élie, mais l'esprit d'Élie repose sur nous, pas seulement sur nous, mais sur tous ceux qui sont de l'épouse. Comment reconnaît-on l'épouse? C'est celle qui, après avoir fait la paix avec Dieu, s'efforce de marcher, de continuer, de persévérer, et qui en est au point où elle peut dire en toute conscience avec l'Esprit de Dieu, « Oui, Seigneur, viens !» L'épouse et l'Esprit disent, « Viens, Seigneur Jésus !» Quelqu'un qui n'est pas prêt n'ose pas prier comme ça. Quelqu'un qui n'est pas de l'épouse de Christ n'ose pas prier comme ça, parce qu'il dit, « Je ne suis pas prêt. Il ne faut pas que Jésus vienne maintenant, parce que je ne suis pas prêt. » L'esprit d'Élie a dit une seconde fois, « Voici l'épouse de Christ. » Et l'épouse de Christ, en communion avec le Saint-Esprit, dit, « Viens, Seigneur Jésus, c'est là ma prière. Amen. » Nous nous levons et nous invoquons le nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi ce matin, et nous sommes reconnaissants parce que tu nous as gardés fidèles jusqu'à ce jour. Je te remercie parce que tu as gardé fidèles aussi Violette et Raphaël, ces hommes, cet homme, cette femme qui sont venus m'apporter l'Évangile là-bas jusqu'en Suisse. Je te prie pour eux que tu les gardes dans leurs vieux jours et qu'ils puissent voir ton retour et partir dans l'enlèvement, recevoir un corps nouveau et glorieux. Je te prie pour eux, je te prie de les bénir. Je te prie, Seigneur Jésus, de bénir tous mes frères et sœurs ici présents, ceux qui écoutent sur Internet. Je te prie de bénir ceux qui doutent, de leur montrer qu'ils doivent arrêter de douter, qu'ils doivent être des croyants, mais pas des croyants de n'importe quoi, des croyants de ta parole. Il y a tant de choses dans ta parole à croire, plutôt que de croire les fables. Père, donne à chacun l'intelligence spirituelle pour qu'il puisse recevoir la force spirituelle de marcher, d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin, persévérant jusqu'à la fin, pour pouvoir être digne de partir dans l'enlèvement. Père, je te le demande, je sais, Seigneur, que je me répète, je sais que je me répète, mais c'est tellement important. Bénis ton peuple, permet que personne ne s'égare et que tous nous soyons réunis dans les lieux célestes avec toi. Merci Jésus. Amen et amen. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous et passez de bonnes fêtes de fin d'année, que ça soit pour vous quelque chose de bon et puis on se retrouve en 2009 si Dieu le veut. Amen. Bye bye.